l'intérêt aussi de la rotigotine est dans les formes secondaires. On a fait cette étude, je crois que c'est la seule étude dans les formes secondaires de l'insuffisance sans repos, à ma connaissance, dans l'insuffisance rénale, qui est probablement la maladie la plus sévère, enfin, du moins des patients que je vois, des patients avec un syndrome des jambes sans repos les plus sévères. Je parle de l'insuffisance rénale au stade de dialyse. Les patients sont extrêmement invalidés, que ce soit la nuit, mais aussi pendant les séances de dialyse, et c'est bien compliqué puisqu'ils ne peuvent pas trop bouger dans leur lit quand ils sont dialysés. Ils sont vraiment très invalidés. Et donc on a publié cet article là dans American Journal of Kidney Disease, qui est la revue majeure pour les néphrologues, que la rotigotine, donc il y avait peu de patients, hein, 30 patients seulement, 20, enfin, là, 2 tiers avec rotigotine, 1 tiers avec placebo, et vous voyez que l'objectif était de traiter les mouvements périodiques, ça marche aussi sur le syndrome des jambes sans repos, mais de traiter les mouvements périodiques pour avoir un critère objectif, je vais y revenir après, et ça marche très bien, en diminuant l'index de mouvement périodique. Donc la rotigotine améliore les mouvements périodiques et le syndrome des jambes sans repos chez les patients dialysés chroniques, qui est donc une population ciblée, sévère, même s'il n'y a pas d'indication d'AMM pour eux. Deuxième donnée majeure, un très bel article publié il y a 3 ans maintenant dans le New England Journal of Medicine, qui est notre revue la mieux cotée dans le domaine médical. Et il a comparé la pregabaline, donc le Lyrica, avec le pramipexol, qui est donc le Sifrol. 3 groupes, vous voyez beaucoup de patients dans chaque groupe, à peu près 180 patients dans chaque groupe. C'est une étude purement clinique, il n'y avait pas d'enregistrement de sommeil. C'est sur le syndrome des jambes sans repos et ce questionnaire qui permet de voir la sévérité du syndrome des jambes sans repos. Et vous voyez qu'avec le placebo, donc sur la sévérité, ça baisse, hein, puisque c'est une échelle qui va de 0 à 40 pour la sévérité. Et donc les gens étaient à 25, 22, 23, 25 à l'entrée dans l'étude. Et vous voyez qu'avec, à 12 semaines, donc une étude double aveugle contre placebo, à 12 semaines, les patients perdent quand même 6-7 points sur une échelle qui subjective. Donc c'est pour ça qu'il c'est bien d'avoir des données objectives, puisque le placebo marche quand même très bien, vous voyez, presque aussi bien que le pramipexol à petite dose. Et cette étude a comparé donc le pramipexol à petite dose, à forte dose, à une dose plus importante, doublée, et la pregabaline à forte dose, là je trouve, 300 mg, on reparlera des doses tout à l'heure, et donc il y a un effet plus important de la pregabaline qui persiste donc à 52 semaines. Donc une belle étude, double aveugle contre placebo pour 3 mois, et pareil après une étude long terme, qui montre un effet on va dire au moins aussi intéressant du Lyrica que du pramipexol. Le problème de cette étude, même si c'est une très belle étude, c'est qu'il y a 2 doses de pramipexol, mais une seule dose de pregabaline, et qui est, dans mon expérience, une assez forte dose, 300 mg, en plus il y a pas mal d'effets secondaires, et donc si vous mettez les gens dans un sommeil artificiel, parce que c'est très sédatif, la pregabaline, ils se plaignent de rien, évidemment, donc passant les jambes sans repos. Donc c'était un peu une étude pour forcer le trait, à mon avis, pour montrer que le Lyrica était efficace. Donc il y a bien 2 phénotypes du syndrome des jambes sans repos qu'il faut à mon avis bien distinguer. Il y a la forme précoce qui débute avant 40 ans, qui a souvent une histoire familiale, plus souvent elle est idiopathique, l'évolution est très lente et elle est très dépendante des taux de fer dans le cerveau, comme vous l'a dit Lorraine. Donc effectivement le métabolisme du fer est très important dans cette maladie, on retrouve ça plus fréquemment dans la grossesse au 3e trimestre, hein, ça peut être particulièrement gênant et avec des problèmes de prise en charge. C'est souvent associé à une carence martiale, notamment chez les donneurs de sang répétés. Et dans l'insuffisance rénale, je viens de vous en parler. La carence en fer en périphérie, c'est très important de la rechercher puisque ça va être un prérequis pour le traitement, mais c'est que 20% des sujets. Et ce qui est le plus pertinent, c'est qu'il y a moins de ferritine dans le liquide céphalorachidien. Une seule étude qui a montré qu'il y avait donc une baisse, si vous faites une ponction lombaire, il y a moins de ferritinémie, même chez les sujets qui avaient une ferritine dans le sang normal. Donc la ferritine dans le sang basse, c'est que peu de sujets, mais dans le cerveau, c'est quasi tous les patients. Et dans des régions stratégiques, comme on vous l'a dit, locus niger et noyau gris notamment. Pardon, locus niger et noyau rouge. Comme vous l'a dit Lorraine, c'est très associé, le fer et la dopamine. Le fer permet donc le fonctionnement du récepteur D2 à la dopamine. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est très important, comme vous le dira Christophe, dans la prise en charge du syndrome d'augmentation, c'est qu'à mon avis, hein, ce qu'il faut absolument retenir, c'est que dans le syndrome des jambes sans repos, il y a une augmentation de la dopamine, ce qui est important puisqu'on va donner de la dopamine, donc c'est pour ça qu'il faudra donner des faibles doses, et ceci principalement en lien avec une baisse des récepteurs D2 postsynaptiques. Donc il y a moins de récepteurs postsynaptiques, notamment les récepteurs D2, et par voie de compensation, votre système compense trop et augmente la synthèse de tyrosine hydroxylase et augmente le taux de dopamine dans la synapse. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est exactement le modèle qui marche avec une carence en fer. Si vous privez une souris d'alimentation en fer, elle va développer un certain nombre des jambes sans repos parce que justement elle va diminuer ses récepteurs D2 et augmenter sa synthèse de tyrosine hydroxylase et de dopamine. Donc c'est un joli modèle de carence en fer qui peut être favorisé quand les souris sont prédisposées génétiquement. Alors ça me fait le lien avec justement la prédisposition génétique. Il y a deux gènes clés. On pourrait dire que c'est une redite avec ce qui vient d'être dit. Pas trop, parce que justement, le but c'est d'avoir un traitement personnalisé à terme et j'espère que dans les années futures, avec le moindre coût des prélèvements génétiques et notamment des dosages et des mesures de ces polymorphismes, on pourra envisager un traitement plus personnalisé. Donc il y a deux gènes clés, MICE1, qui est un gène du développement des membres au niveau du système nerveux, notamment sympathique, et qui permet toute la connectique de façon très précoce, hein, vers 10 jours à l'état embryonnaire. Et si vous, c'est des gènes tellement importants comme facteur de transcription pour le développement des membres, c'est que les souris qui n'ont pas MICE1 meurent. Donc vous ne pouvez pas avoir vraiment de modèle animal de souris sans ce facteur de transcription, notamment pendant le développement. Par contre, on peut faire des souris conditionnelles à MICE1, où vous enlevez MICE1 dans des régions stratégiques qui vous semblent pertinentes, et notamment dans le développement des membres. Donc vous pouvez avoir des souris qui n'ont pas de développement des membres uniquement, alors que tout leur système, notamment cardiovasculaire, fonctionne bien. Donc nous, on travaille dessus actuellement. Donc effectivement, en France, pour vous donner les données, vous avez 35% d'augmentation du risque d'avoir un syndrome des jambes sans repos quand vous allez l'allèle à risque MICE1, et 41% d'augmentation du risque d'avoir un syndrome des jambes sans repos quand vous avez l'allèle à risque BTBD9. D'accord ? Donc c'est une étude assez ambitieuse de Julian Dinkelmann qui va répliquer ces données là cette année. Donc il y avait l'Allemagne, la France, la Tchéquie, la Finlande, le Canada et les US dans ce travail. Donc deuxième forme du syndrome des jambes sans repos, la forme qui commence plus tard, après 45 ans, l'histoire familiale est plus rare. Souvent, il y a une forme secondaire, des maladies associées dont on va reparler, l'évolution est plus rapide, et là, il y a moins, justement, de manque de fer dans le cerveau. Alors là, il y a X maladies associées, l'insuffisance rénale, polyneuropathie, maladie de Parkinson, diabète, donc il y a toute une liste qui ne semble pas pertinente de rechercher pour chaque patient, mais l'insuffisance rénale, s'il y a une carence en fer, on en a parlé, s'il y a une polyneuropathie, à rechercher pas par un électromyogramme, mais par un examen clinique, semble nécessaire puisque ça va changer la prise en charge. Et après les complications, il y a des complications du syndrome des jambes sans repos au niveau cardiovasculaire, je vous en parlais un tout petit peu, hypertension artérielle, diabète, obésité, syndrome métabolique, dépression, insomnie, trouble des impulsions, syndrome d'augmentation, donc Christophe va reparler, et baisse de la qualité de vie, on en a parlé, baisse des performances, absentéisme. Donc tout ceci est associé et la conséquence ou des comorbidités, parce que ce n'est pas forcément conséquence directe, ça peut être indirect, du syndrome des jambes sans repos. Alors, pour votre gouverne, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais par chance ou une bonne nouvelle, le syndrome des jambes sans repos est à l'affiche au niveau européen, en faisant un peu de politique. Donc le 18 janvier, donc il y a un mois, il y a une grande conférence très importante sur les maladies du cerveau à Bruxelles, sur notamment tout ce qui est surtout pharmaco-économique, hein, une approche justement sur les coûts des maladies, des examens, du suivi et de la prise en charge thérapeutique. Et ils ont sélectionné 6 ou 7 maladies de mémoire, sclérose en plaques, Parkinson, Alzheimer, je ne sais plus tout, le stroke. Et une d'entre elles, c'est le syndrome des jambes sans repos. Donc c'est très bien, ça fait parler de cette maladie, c'est une bonne nouvelle. Et donc il y a 4 pays représentés. Il y a l'Allemagne, puisque c'est Claudia Trenwalker qui gère ce groupe pour le syndrome des jambes sans repos. Il y a l'Italie, Raphaël Ferri, j'ai oublié un pays peut-être, et la France, et je suis votre serviteur.